Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Les Harlem Globetrotters sont connus et reconnus pour être la plus grande équipe de basket afro-américaine de tous les temps, ils ne sont pas la première équipe composée de joueurs noirs dans l'histoire du basket américain. 4 ans avant les Globetrotters, une autre équipe avait vu le jour, les New York Renaissance, plus connus sous le nom de Rens. De 1923 à 1949, les New York Renaissance ont été un symbole d'abnégation et de courage. Dans une Amérique où le racisme et la xénophobie étaient dans les mœurs, ils vont prouver qu'une équipe composée de joueurs africains-américains pouvait dominer son sport. Les Rens sont la première grande équipe de Harlem. Désolé les Globetrotters, mais on tenait à rendre hommage à ces Rens. Fondés en 1923 par Robert Bob Douglas, les Rens doivent leur nom au Renaissance Casino and Ballroom. C'était leur camp de base pour jouer leurs matchs. Situé au carrefour de la 138e rue et de la 7e avenue, en plein cœur du quartier de Harlem, cette salle était parfaite pour le basket, avec un terrain spacieux et des tribunes pour accueillir les spectateurs. Alors que les Harlem Globetrotters étaient originellement basés à Chicago, les New York Rens étaient la véritable équipe du célèbre quartier du nord de Manhattan. Notez qu'au départ, l'équipe ne devait pas s'appeler les New York Rens, mais les Spartan Braves. C'est William Roach, le propriétaire de la salle, qui va les obliger à changer de nom. En fait, il avait accepté de louer son enceinte à tarif réduit si Bob Douglas changeait son nom en Renaissance afin de promouvoir le casino attaché à la salle. Une fois le contrat signé et le changement de nom entériné, Douglas engage 5 joueurs pour former la première équipe professionnelle de l'histoire, exclusivement composée de joueurs afro-américains. Parmi les premiers joueurs signés, on retrouve Clarence Fats Jennings, James Pappy Ricks ou encore Frank Strangler Forbes, 3 légendes des années 20. Ces 3 joueurs, en plus de jouer au basket, avaient la particularité de disputer des Negro Leagues en baseball. Résultat, ils jouaient 2 fois par jour, même le dimanche, et ils allaient partout, Hartford, New Haven, Springfield. Souvent, ils affrontaient une équipe à l'extérieur l'après-midi pour jouer un match à New York le soir. Quelques heures plus tard, un rythme de vie assez démentiel. En 1925, moins de 2 ans après leur création, les Rens remportent le Colored Basketball World Championship, le premier trophée d'une longue série, et vous aurez noté le nom de la ligue, le championnat du monde du basket de couleur. Une drôle d'époque. Les Rens vont alors dominer non seulement les autres équipes noires, mais aussi tout le petit monde du basket en général. Mais dans l'Amérique de l'entre-deux-guerres, la ségrégation se fait sentir partout et tout le temps. En déplacement, de nombreux blancs amateurs de basket refusent de regarder les matchs des Rens, tout simplement en raison de la couleur de leur peau. Le soir, après leur match, il leur était souvent difficile de trouver un hôtel qui acceptait d'héberger des personnes de couleur. Il fallait aussi respecter des règles aussi bêtes que ne pas emprunter le trottoir réservé aux blancs ou ne pas se tromper de toilette. Tout un symbole de l'ère pré-civil rights. Ancien joueur des Rens, John Isaacs racontait que dans certains restaurants, au moment d'apporter le menu, certains serveurs revenaient avec un fusil. Malgré tout, quelques-unes des meilleures équipes blanches ont accepté d'affronter les Rens, comme les Original Celtics, les Philadelphia Spaz ou encore les Oshkosh All-Stars. Et le plus souvent, ce sont les Rens qui prenaient le dessus sur ces équipes composées exclusivement de joueurs blancs. Même si c'était parfois vu comme une hérésie à l'époque, ces rencontres attiraient toujours un public très nombreux et les joueurs blancs étaient pour la plupart très fiers de se mesurer aux meilleurs joueurs de couleur. Mais dans la rue, c'était une autre ambiance avec parfois des émeutes. Heureusement, parfois, le sport rapproche et unit. Malgré leur rivalité sur le parquet, il existait un énorme respect entre les Celtics et les Rens en dehors des terrains. lorsque l'American Basketball League a refusé d'intégrer les Rens en 1925 en raison de la couleur des joueurs, les Celtics ont décidé de quitter temporairement ce championnat, qui était alors le meilleur du monde. Pour les Rens, les Celtics étaient même des modèles, notamment sur le plan du jeu, puisque la stratégie commençait à prendre le pas sur les qualités individuelles. Dominateurs à la fin des années 20, les Rens deviennent une machine pratiquement imbattable dans les années 30. Lors de la saison 1932-33, l'équipe compile un fabuleux bilan de 120 victoires pour seulement 8 défaites, dont 6 rien que face aux Celtics. En 1939, le premier World Professional Basketball Tournament est organisé et regroupe les meilleures équipes de tout le pays. Vous aurez remarqué que les Américains appellent déjà ça World alors que tout se passe chez eux. Après avoir battu les Harlem Globetrotters, les Rens remportent le titre de champion en dominant les Oshkosh All-Stars, double champion de la National Basketball League. Score final 34-25. Puggy Bell est élu MVP de la compétition et place les Rens au sommet de la hiérarchie du basket. Ils sont tout simplement la meilleure équipe du monde. Malgré le début de la Deuxième Guerre mondiale, les Rens restent l'une des équipes majeures du paysage sportif afro-américain. Alors que les mentalités commencent à changer, la NBL devient la première ligue blanche à accepter la présence de joueurs noirs. Les Rens se relocalisent alors à Dayton, dans l'Ohio, en 1948, pour la dernière année d'existence de cette ligue, car la NBL fusionne avec la BAA en 1949 pour former la NBA. Les Rens ne sont pas invités à rejoindre ce nouveau championnat, car la NBA est une ligue exclusivement blanche, et elle le sera jusqu'en 1950. La fin de la NBL marque la disparition des Rens qui quittent les parquets avec un bilan final de 2588 victoires pour 529 défaites. Coach mythique de UCLA, John Wooden, les avait affrontés en 1930 et il les considérait comme la meilleure équipe de tous les temps, rien que ça. En 1963, l'équipe intègre le Hall of Fame et deux joueurs suivent quelques années plus tard à titre individuel, William Pop Gates et Charles Tarzan Cooper. A noter que Cooper n'a pas intégré le Hall of Fame comme joueur, mais dans la catégorie contributeur, un affront pour un joueur qui a été le premier vrai pivot de l'histoire du basket. Enfin, Bob Douglas, le fondateur de l'équipe, a quant à lui intégré le Hall of Fame en 1972.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match. And reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.